Nous commençons le module qui concerne l'astrophysique et j'ai le grand plaisir d'accueillir ce soir mon ami Jean Audouze qui va nous parler, excusez du peu, les grandes questions de la cosmologie. Alors Jean Audouze est né en 1940, il est ancien élève de l'école normale supérieure, docteur en sciences physiques et astrophysique. Son parcours est un parcours de chercheur et d'enseignant prestigieux puisqu'il a fait une grande partie de sa carrière au CNRS, mais il a aussi enseigné à l'étranger, par exemple, et fait de la recherche, par exemple au California Institute of Technology. Il a été maître de conférences de physique à l'École Polytechnique, directeur de l'Institut d'Astrophysique de Paris, professeur visiteur à l'Université de Berkeley, etc., etc. Il a aussi eu des responsabilités, je dirais, à l'interface de la connaissance, de la recherche et de la décision politique, puisqu'il a été conseiller technique à la présidence de la République de 89 à 93 pour les sciences. Et de 93 à 96, il a été président de l'établissement public du parc et de la grande halle de la Villette. Il est actuellement directeur de recherche au CNRS et aussi directeur de cet endroit où beaucoup d'entre nous avons découvert les choses scientifiques, c'est-à-dire directeur du Palais de la Découverte. Il est bien évidemment astrophysicien. J'indique quelques-unes de ses publications, outre des publications, je dirais, techniques. Une grande participation au Grand Atlas d'astronomie en 1983, Conversation sur l'invisible avec Michel Cassé et Jean-Claude Carrière aux éditions Plomb en 1988, Enquête sur l'univers 90, Les particules et l'univers aux presses universitaires de France en 90, Regard sur le visible toujours avec Jean-Claude Carrière en 96 chez Plomb, L'univers 1997 aux presses universitaires de France et participation à un ouvrage collectif chez Albin Michel cette année, L'homme dans ses univers. Voilà, je lui laisse la parole pour 50 minutes sur les grandes questions de la cosmologie et ensuite vos questions. Merci.
Bien, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et merci Yves Michaud pour cette introduction. Et donc 50 minutes pour parler des grandes questions de la cosmologie, il ne faut pas que j'en perde trop. Donc pour vous dire que je vais diviser mon propos à peu près en trois parties. D'abord vous dire la cosmologie, qu'est-ce que c'est? Contrairement à l'astrologie qui n'est pas une science, la cosmologie est une science, mais elle a un caractère un peu particulier. C'est-à-dire que nous appliquons les méthodes scientifiques à un objet particulier, l'univers. Alors pourquoi l'objet est particulier? C'est qu'il est unique et d'autre part nous en faisons partie. Généralement, lorsque un physicien ou un chimiste ou un biologiste fait une expérience, eh bien il a le privilège d'expérimenter quelque chose qui lui est extérieur. Eh bien l'astrophysicien n'a pas je ne dirais pas qu'il n'a pas cette chance, mais disons qu'il doit procéder un petit peu différemment, puisque, j'essaierai de vous le démontrer, vous le savez bien, notre existence, notre constitution même, est un fait cosmologique et va nous permettre, enfin tout au moins je l'espère de vous en convaincre, de répondre à ces questions que je vais évoquer devant vous. Alors, je voudrais diviser mon propos en trois parties inégales. La première, assez brève, c'est pour vous montrer que la cosmologie n'est pas une science récente. Les hommes, depuis 5 millénaires, ont une vision de... Enfin, en tout cas, on sait qu'au moins depuis 5 millénaires, peut-être ils en avaient auparavant, mais en tout cas, on a des traces écrites que depuis ce temps-là, les hommes ont eu des visions, une vision de l'univers, assez étriqué au début et puis évidemment beaucoup plus large actuellement. Donc vous montrez un petit peu comment la vision de l'univers a évolué au cours du temps. Évolution qui n'est pas due tellement à l'intelligence humaine, ou tout au moins à son évolution, mais plutôt au fait que dans le dernier siècle, nous avons bénéficié à la fois du développement des sciences et d'autre part de la... Nous avons deux grandes théories auxquelles je ferai allusion. La théorie de la relativité qui s'adresse à l'univers dans ses grandes structures et puis la mécanique quantique qui s'intéresse au monde au monde microphysique. Et vous verrez que nous aurons à faire appel à ces deux disciplines pour comprendre, pour, disons, répondre aux questions qui se posent aujourd'hui. La deuxième raison pour laquelle les choses ont évolué, évidemment, c'est le développement sans précédent des technologies et des moyens qui sont mis à la disposition des hommes pour contempler le ciel, non seulement pour le contempler, mais même de temps en temps pour faire des mesures appropriées, dont je vais dire un mot dans quelques instants. Donc ça va être la première partie de mon discours. La seconde, c'est avant de poser les questions, c'est de dire comment se présente l'univers. Je dirais ça en deux mots, il est structuré, l'univers tel qu'on le perçoit est structuré. Alors les philosophes pourront se poser, comme Yves Michaud, pourront se poser la question, est-ce que cette structure est effectivement quelque chose de réel ou est-ce que c'est notre regard sur le monde qui impose ces structures? C'est plutôt une question pour la fin. En tout cas, il apparaît structuré. Deuxièmement, il est en expansion. Et l'expansion de l'univers, le fait qu'il subit un mouvement important depuis à peu près une quinzaine de milliards d'années, donne une certaine coloration aux questions que l'on va poser, qui, selon moi, sont de deux sortes. La première, c'est quelle est l'origine? Je crois que un des grands thèmes récurrents du savoir ou des sciences, c'est de se poser la question qui sommes-nous, où sommes-nous? Et je crois que de ce point de vue, les 14 exposés qui constituent l'astrophysique, le mien et ceux qui vont me suivre, eh bien, vont essayer de répondre à cette question. Une question qui est peut-être un peu plus large que celle que peuvent se poser l'historien ou l'archéologue, c'est celle effectivement, quelle est l'origine? Est-ce que l'univers a-t-il ou n'a-t-il pas une histoire ou une origine? Et la deuxième question que je poserai et je donnerai peut-être quelques éléments de réponse, c'est quelle est la structure effectivement, qu'est-ce qui constitue la matière? Voilà, si vous voulez, un peu l'architecture de mon propos, et je reviens tout de suite à l'évocation des prémices de la cosmologie. On peut dire que il est évident qu'on retrouve dans les civilisations mésopotamiennes, Babylone, Ninive, que sais-je, des traces, des considérations astronomiques, mais je pense que les premiers penseurs qui ont véritablement conçu ou donner une image de l'univers, ce sont les Grecs, et singulièrement ceux qui vivaient à Alexandrie. Alors il faut savoir qu'à cette époque, au 3e siècle avant Jésus-Christ, je suis directeur du Palais de la Découverte, il y avait un directeur du musée d'Alexandrie, il s'appelait Ératosthène, qui était comme moi un astronome, et qui lui a fait une très grande découverte à l'époque, puisqu'il a déterminé avec des moyens extrêmement simples. Il savait que la Terre était ronde et il a mesuré de façon assez précise, par une méthode trigonométrique, il a mesuré la valeur du rayon de la Terre. Donc, à cette époque néanmoins, on sait que la Terre est ronde, enfin certains savent que la Terre est ronde, mais on la place au centre de l'univers. L'univers est géocentrique et les très grands astronomes de l'époque, Hipparque et Ptolémée, fondent leur système, leur cosmogonie, c'est-à-dire la description de l'univers dans son ensemble, ils la fondent sur le fait que l'univers est centré autour de la Terre, le Soleil et la Lune tournent autour, comme les planètes tournent autour de cette Terre, et la voûte céleste, et donc il y a un certain nombre de petits points lumineux qui constituent les étoiles. Mais on a effectivement un monde assez étriqué, comme vous allez voir, et ceci, ça va durer jusqu'à la Renaissance. On va voir effectivement un homme qui a joué un rôle très important. Ce n'est pas le premier qui a conçu l'héliocentrisme. Il s'agit de Nicolas Copernic, qui a publié donc en 1543 un ouvrage qui s'appelle « De revolutionibus orbium celestium », qui a été publié quasiment le jour de sa mort, mais on savait déjà depuis les intellectuels de l'époque savaient depuis un certain nombre d'années que Copernic allait proposer une théorie héliocentrique. Il faut savoir que cette pensée, il l'a découverte indépendamment, mais elle existe. Il y avait déjà des penseurs sous l'Antiquité, en particulier Aristarque de Samos, qui avait déjà imaginé que l'univers pouvait être héliocentrique. Je vais montrer juste la deuxième. Donc, c'est un chanoine polonais qui a vécu beaucoup, mais qui a été marqué par sa culture italienne et sa culture germanique. Mais enfin, en tout cas, à l'époque, il y a maintenant les savants, enfin, je veux dire, les chercheurs écrivent en anglais. À l'époque, on écrivait en latin. Vous savez que Newton a écrit sa théorie de la gravité en latin. Ceci montre, c'est une carte qui a été gravée par un artiste néerlandais au début du XVIIIe siècle. Et les deux personnages qui se trouvent effectivement en bas à droite et en bas à gauche de cette figure représentent Copernic et Aristarque de Samos. Donc, à la Renaissance, on propose une théorie héliocentrique, mais il y a une grande constante dans les sciences dites dures ou les sciences exactes, c'est qu'il ne suffit pas qu'il y ait une découverte, il faut après qu'elle soit acceptée et adoptée par le reste de la communauté, non seulement la communauté scientifique, mais la société tout court. Et vous savez que l'héliocentrisme, même au début du XVIIe siècle, Galilée a eu maille à partir avec l'Église en raison justement du fait qu'il propageait la théorie de Copernic. Alors pourquoi j'évoque le XVIIe siècle? C'est parce qu'effectivement à cette époque, nous avons la naissance des premiers instruments. Galilée, je crois que son grand apport, c'est son principe d'inertie, le fait qu'il balaye la théorie aristotélicienne de la physique, c'est-à-dire qu'il montre qu'effectivement les corps qui sont soumis à aucune force se propagent en ligne droite. C'est lui qui propose le premier principe de relativité, selon lequel les mouvements rectilignes uniformes sont indépendants des repères que l'on choisit pour les étudier. Et puis, vous avez ensuite, à cette même époque, Kepler, qui propose, un élève de Tycho Brahe, qui propose les lois du mouvement des planètes, et Newton, qui s'en sert pour proposer sa théorie de la gravité, qui a un mérite, c'est la première théorie, disons, de physique unificatrice, à savoir que Newton découvre que les mouvements des planètes autour du Soleil et les mouvements de la chute des corps procèdent, c'est finalement le même processus physique qui se décrit par la fameuse loi de Newton. Disons que la force relative entre deux corps massifs est proportionnelle à la masse, au produit de la masse de ces deux corps et divisée par le carré de la distance entre les deux corps. Et donc, Newton, qui est aussi l'un des inventeurs des télescopes, la lunette astronomique découverte par Galilée, va nous permettre évidemment d'avoir une vision beaucoup plus large et beaucoup plus grande de l'univers, puisque, comme vous le savez, un télescope ou une lunette astronomique permet de rassembler de la lumière dans une surface très petite, de la concentrer, et donc son mérite, c'est de voir effectivement des objets de faible luminosité. Alors je passe très vite, je saute le 19e siècle, le 18e, le 19e, et j'en arrive effectivement à l'époque moderne pour dire qu'effectivement, qu'est-ce qui caractérise l'époque moderne, c'est d'une part le fait que nous avons des instruments, des télescopes de plus en plus grands. Jusqu'aux années 80-85, les astronomes ne disposaient que de télescopes d'à peu près le plus grand télescope, c'était le télescope du Mont Palomar, de 4 mètres de diamètre, puis celui du Mont Zelenchouk, dans le Caucase, d'à peu près 5 mètres. Et maintenant, on est dans la catégorie des télescopes de 10 mètres de diamètre, comme celui qui se trouve, le télescope Keck, qui se trouve sur le Mauna Kea, dans la grande île d'Hawaï. Vous savez aussi que depuis 2 ans, le très grand télescope européen a commencé à donner ses lumières, à donner ses images. C'est donc un télescope européen qui se trouve sur le mont Paranal au Chili, qui va être, lorsqu'il sera terminé, sera constitué de 4 télescopes de 8 mètres, qui sera équivalent en surface collective à un télescope de 16 mètres de diamètre. Le deuxième point, c'est qu'on n'observe pas seulement l'univers avec nos yeux, mais on peut l'observer également dans tous les domaines de longueur d'onde, depuis la radio, et ça on sait le faire depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, après l'invention des radars, la radioastronomie qui procède de la même technologie a permis de regarder le ciel dans ses ondes radio, qui correspond à une lumière extrêmement peu énergétique. On sait maintenant, et puis depuis 1957, depuis le vol du Spoutnik, les astrophysiciens disposent de l'espace et peuvent mettre en orbite des télescopes de toute dimension, de toute taille, qui peuvent regarder non seulement le visible, comme la diapositive va vous le montrer, c'est le fameux télescope spatial qu'on a attendu très longtemps puisqu'il a été conçu en 1947 par Spitzer. On y a travaillé, beaucoup de monde, depuis 1974, date à laquelle on a décidé son financement, jusqu'en 1990. Vous savez que pendant 3 ans, il était astigmate et il a permis maintenant, depuis 1993, il a été réparé. Et je vais vous montrer quelques-unes des photos qu'on obtient avec lui. La première qui intéresse les astronomes, puisque vous savez que... Donc ceci représente Bételgeuse, qui est l'étoile la plus brillante de la constellation d'Orion. Et normalement, lorsque vous regardez avec un télescope ordinaire, ou depuis la Terre, même un très grand télescope, vous voyez une étoile, c'est un point scintillant dont on ne peut pas mesurer la dimension. Pourquoi ? Parce que l'image d'une étoile est brouillée par l'atmosphère. Eh bien, dans le cas du télescope spatial qui évolue à 500 km d'altitude, eh bien, on a pu résoudre effectivement une grande étoile comme Bételgeuse. Et imaginez que le Soleil soit Bételgeuse, eh bien, on serait à l'intérieur, on serait effectivement, vous voyez, à l'intérieur de l'étoile. Donc, une planète comme la Terre n'existerait pas aussi. Enfin, si le Soleil devenait Bételgeuse, c'est sûr que la Terre disparaîtrait, ce qui peut se produire effectivement dans à peu près 5 milliards d'années. Une autre photo, je ne vous en montre pas trop. Celle-ci est importante pour mon propos de ce soir, c'est de vous montrer des images d'amas de galaxies. Chaque point, ces petits points, représentent des galaxies bleues irrégulières qui sont constituées d'environ une centaine de milliards d'étoiles. Voilà des galaxies plus importantes, galaxies spirales, un peu analogues à notre Voie lactée. Et vous savez que notre Voie lactée, elle correspond à peu près à 200 milliards d'étoiles, dont 90% ressemblent ou sont semblables au Soleil. Alors, la photo précédente nous permettait de montrer une chose importante, c'est que contrairement à ce qu'on croyait avant les années 90, et bien maintenant, où on imaginait que les galaxies naissaient toutes en même temps et se différenciaient effectivement par leur masse et par leur forme morphologique. Maintenant, grâce à la photo précédente, vous avez vu des petits points bleus, on a une image de régions dans lesquelles les galaxies de petite taille se collent les unes aux autres pour former de plus grands objets. Donc, on a une idée de la façon dont ces galaxies se forment au tout début de l'histoire de l'univers. Alors pourquoi je dis le tout début de l'histoire de l'univers ? Parce que lorsque vous observez des objets, très lointains, eh bien vous les observez dans leur passé. Et aujourd'hui, je vous évoquerai quel est le champion du monde, l'objet qui est le plus loin. On imagine qu'il ne s'est écoulé que 1 milliard d'années entre ce que l'on dit être... j'anticipe un peu sur mon propos, mais vous imaginez bien que je vais vous parler un peu de la théorie du Big Bang. Eh bien, entre ce moment un peu particulier et la naissance de l'objet, disons, le plus lointain que l'on a observé, il ne serait écoulé que 1 milliard d'années, ce qui nous pousse vraiment de plus en plus vers les phases initiales, de l'univers. Alors là, j'en arrive maintenant au... Je vais dire juste avant de vous commenter cette diapositive un peu compliquée, mais qui contient pas mal d'informations, mais qui va être importante pour notre propos, c'est que non seulement on regarde le ciel dans le visible ou dans les différentes ondes, rayonnements, les rayonnements gamma et les rayonnements X. Par exemple, si vous faites la radioscopie, vous pouvez faire la radioscopie de l'univers et observer l'univers en X, et là, le rayonnement X vous montre les phases très chaudes, très denses, très chaudes de l'univers. Lorsque vous regardez dans l'infrarouge, vous regardez des objets qui ont des températures analogues à la nôtre. Si on mettait l'obscurité dans cette salle et qu'on avait une caméra infrarouge, eh bien, monsieur pourrait toujours continuer à nous voir avec sa caméra infrarouge. En radio, effectivement, ça correspond à des zones beaucoup moins énergétiques, et en particulier les zones qui correspondent généralement aux gaz interstellaires. Alors, donc, j'espère vous avoir convaincu que, effectivement, notre vision du monde a évolué. Elle est passée de l'héliocentrisme, qui restait relativement étroit de la Renaissance, à une multiplication, disons, à un nez, une dilatation de cet univers observable. Mais ça s'est produit finalement assez récemment, puisque ce passage de l'héliocentrisme à, disons, au fait que le système solaire est devenu un point tout à fait ordinaire dans notre, disons, ordinaire de l'univers, eh bien, c'est arrivé dans les années 1914-1920, lorsqu'un astronome américain, William Shapley, en regardant la distribution d'amas d'étoiles qu'on appelle des amas globulaires, je vous en montrerai un plus tard, eh bien, il s'est aperçu que si on voulait rendre cette distribution, on voulait lui donner de la symétrie, eh bien, il fallait transporter le centre de la Voie lactée depuis le Soleil jusqu'à une distance d'à peu près 30 000 années-lumière dans la direction de la constellation du Sagittaire. Et à ce moment-là, effectivement, le Soleil devient une étoile parmi tant d'autres dans notre galaxie. Et notre galaxie, on s'est aperçu au même moment que notre galaxie était l'une parmi plein d'autres. On arrive maintenant à dénombrer jusqu'à au moins un milliard de galaxies extérieures. Donc vous voyez que l'univers se présente maintenant comme des centaines de milliards d'étoiles, dont la plupart sont assez semblables au Soleil. Alors une des choses qui apparaît clairement, c'est qu'il n'y a pas de point privilégié dans l'univers observable, il n'y a pas d'endroit particulier. Évidemment, on voit des objets bizarres, du genre des étoiles qui explosent. Je vous montrerai, ou l'évocation, plutôt j'évoquerai ce qu'est un trou noir, on en parlera, Jean-Pierre Luminet en parlera plus tard dans cette série de conférences, mais ce qui est le point important, si vous voulez, c'est que nous vivons dans une région ordinaire, autour d'une étoile ordinaire, nous sommes peut-être nous-mêmes de la matière ordinaire. Je crois que le principe copernicien selon lequel il n'y a pas de point privilégié dans l'univers, je crois que c'est un point assez important qui va évidemment guider les questions que nous pouvons nous poser en matière de cosmologie. Et puis, dernier point, et avant d'aborder l'univers lui-même, c'est de dire que nous avons un autre moyen pour le comprendre. Ce sont aussi toutes les expériences de physique nucléaire et de physique des particules. Alors, vous allez me dire, mais lorsqu'on regarde un noyau d'atomes, un noyau, c'est quelque chose d'infinitésimal à l'échelle d'une étoile et a fortiori à l'échelle d'une galaxie, eh bien justement les travaux actuels démontrent que les progrès de la physique des particules, de la physique nucléaire, ont profité directement à la compréhension de l'univers. Pour vous donner un exemple qui vient des problèmes que j'ai étudiés au début de mon parcours professionnel, eh bien, on s'aperçoit par exemple qu'il est indispensable de disposer de la physique nucléaire pour comprendre pourquoi les étoiles brillent et comment elles manufacturent les éléments chimiques à l'intérieur d'elles-mêmes. Alors pourquoi le Soleil brille ? Eh bien c'est simple, c'est parce que depuis 4,5 milliards d'années, il transforme l'hydrogène, son hydrogène en hélium, par des réactions qu'on appelle des processus thermonucléaires, et ce faisant, donc c'est une réaction, ce sont des réactions nucléaires très classiques que l'on essaye de reproduire par la fusion thermonucléaire, qu'on arrive à faire de façon explosive, qu'on n'arrive pas tout à fait bien à faire de façon calme, mais en tout cas, les étoiles, ce sont donc des réacteurs à fusion thermonucléaire, à confinement gravitationnel qui marche très bien, puisqu'on les voit fonctionner pendant presque une dizaine de milliards d'années. Donc vous voyez que la physique nucléaire intervient sur un des objets essentiels de une des bases, des fondements de l'univers, à savoir les étoiles. Si on ne comprenait pas ce qui se passe au niveau du noyau, on ne comprendrait pas comment les étoiles, d'où elles tireraient leurs énergies et comment les différents éléments chimiques se formeraient les uns par rapport aux autres. Alors deuxièmement, je vais essayer de vous montrer dans la suite que la compréhension des composants ultimes qui se trouvent à l'intérieur des noyaux d'atomes, non seulement les protons et les neutrons qui ne sont pas des particules élémentaires, les particules élémentaires ce sont les trois quarks qui les fabriquent, quark c'est un nom qui vient de James Joyce, les scientifiques flirtent toujours avec la formation littéraire, et donc qui a été donné par l'inventeur de ces particules, qui s'appelle Murray Gell-Mann, qui travaillait au Caltech, et qui a montré, et après on l'a prouvé expérimentalement, que les protons étaient formés de deux quarks de charge plus deux tiers, auxquels on associait un quark de charge moins un tiers. Deux quarks qu'on appelle U et un quark qu'on appelle D. Et si on transformait un U en D, c'est-à-dire qu'on avait deux tiers moins un tiers moins un tiers, eh bien on passait du proton au neutron. Alors, ça me permet de faire la transition effectivement avec cette diapo et qui vous montre, enfin, en tout cas pour moi, qui me suggère que l'univers est structuré et que l'on passe effectivement d'un domaine nucléaire ou subnucléaire qui représente 10 puissance moins 13 cm, c'est-à-dire des distances, c'est 100 000 milliardième de centimètre. Indéfinissable ou indescriptible pour nous, à notre échelle. Alors, je n'aurai pas le temps de vous faire Donc, c'est si, par exemple, un atome, en ce moment, on est dans une période de football, donc imaginez que l'atome est le terrain de football, eh bien, vous prenez une cerise et vous avez la dimension, la cerise, pas sur le gâteau, mais dans le stade de football, sera donc ce noyau, le noyau de cet atome. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur du noyau, il y a deux forces fondamentales de la physique. La force nucléaire forte qui assure la cohésion de la matière. Si cette force n'existait pas, il n'y aurait pas de matière. Si nous pouvons nous maintenir avec une certaine durée de vie, c'est parce qu'effectivement, nos noyaux gardent cette cohésion par l'action de cette force forte. Et une interaction faible qui transforme les protons en neutrons ou vice-versa, les quarks en antiques, une famille de quarks en une autre famille de quarks, avec émission de ce qu'on appelle les leptons, les électrons et les neutrinos. Alors ça paraît compliqué, mais c'est fondamental parce que cette force faible est à l'origine de la radioactivité. Lorsque vous voyez dans le combat actuel entre ceux qui aiment l'énergie nucléaire et ceux qui ne l'aiment pas, généralement, il est question de force faible, de la radioactivité plus ou moins longue, de certains déchets radioactifs. Et j'aurai l'occasion de dire que la radioactivité permet de mesurer l'âge de l'univers par une technologie développée par notre ancien ministre Claude Allègre et d'autres collègues, donc les géochimistes. Nous allons ensuite donc passer des noyaux aux atomes molécules, aux poussières interstellaires, météorites. Nous-mêmes, nous sommes à un point qui se trouve à peu près dans cette zone-là. Et puis ensuite, nous passons aux météorites plus ou moins grosses. Une météorite de dimension d'à peu près une dizaine de kilomètres de diamètre était peut-être à l'origine, vraisemblablement à l'origine de l'extinction des espèces à la fin du secondaire, en particulier des dinosaures. Et puis, vous passez aux astéroïdes, pulsars, etc., pour arriver au Soleil, aux amas d'étoiles, aux galaxies, etc., jusqu'à l'univers observable, qu'on peut représenter par un point. Il suffit d'avoir une idée de sa densité moyenne. Je vous ai dit qu'on mesurait son âge, d'une quinzaine de milliards d'années. Eh bien, si vous avez une sphère de 15 milliards d'années de lumière de rayon, vous connaissez sa densité, donc vous pouvez avoir une idée de la masse. Alors, vous voyez qu'il y a tout un domaine qui est interdit, ou que j'ai mis en noir, qui est le domaine des trous noirs. Je ne vais pas en dire beaucoup, sinon que ces objets sont prédits de façon naturelle par la relativité générale d'Einstein. Ce sont des objets qui sont tellement denses que non seulement ils attirent la matière sur eux-mêmes, mais qu'ils attirent tout, y compris les rayonnements électromagnétiques. Il faut savoir qu'en 1915, lorsque Einstein a proposé sa théorie de la relativité générale, la différence entre la relativité restreinte, où la lumière n'est pas affectée par par la matière, eh bien, en 1915, la relativité générale, la matière est affectée par la présence de masse, de matière, et effectivement, si la matière est très condensée, eh bien, elle peut absorber la lumière, et on a à ce moment-là un trou noir. Je n'en parle pas plus, puisque vous aurez une conférence sur le sujet, simplement pour vous montrer la diapo suivante, et vous montrer donc un schéma d'un trou noir, disons. Évidemment, c'est un schéma, puisque, par définition, un trou noir est invisible. C'est, par exemple, dans un système double d'étoiles, une étoile très massive qui se trouve à l'intérieur de ce point noir et qui a suffisamment, qui exerce une force gravitationnelle suffisamment forte sur son compagnon pour que celui-ci forme un disque, ce qu'on appelle un disque d'accrétion, et la matière qui tombe extrêmement rapidement sur l'étoile jusqu'à émettre en X. Alors c'est comme l'homme invisible que l'on voit par ses bandelettes. De fait, les trous noirs, il n'y a rien de plus visible qu'un trou noir. Je vais vous montrer un trou noir très visible. C'est un quasar. C'est l'un des plus célèbres, c'est le 273e objet du 3e catalogue de Cambridge. C'est le quasar classique type qu'on connaît depuis les années 60, début des années 60. Et pour expliquer cette formidable, émission énergétique, eh bien, on imagine que le moteur de cette émission énergétique est le trou noir central qui se trouve, disons, à l'intérieur de ce trou noir. Et aujourd'hui, la plupart des galaxies, dont la nôtre, on imagine qu'il y a un trou noir central qui, effectivement, explique pourquoi les centres des galaxies sont des objets particulièrement énergétiques. Alors, je vais très vite pour arriver au... Donc, l'univers est structuré. Et la deuxième question qu'effectivement on peut se poser, c'est comment, je vous ai indiqué qu'il était à peu près le même partout, c'est-à-dire qu'effectivement il y avait ce qu'on avait le principe de modestie, principe copernicien, et puis on ajoute aussi un principe qui est celui qu'on imagine, on fait la spéculation, que les lois de la physique qui s'appliquent ici s'appliquent également dans tout, non seulement dans l'espace, mais également n'ont pas varié dans le temps. Alors ça, c'est une hypothèse qui avait été combattue par certains physiciens, comme Dirac, qui imaginaient que, par exemple, la constante de gravité avait pu évoluer dans le temps, mais il a construit une cosmologie, justement, en jouant sur une constante de la physique, et puis il s'est aperçu que ça ne marchait pas. Donc, pour le moment, le principe dit d'équivalence selon lequel les lois de la physique sont à peu près invariables dans le temps et dans l'espace, c'est ce que c'est dans ce cadre-là que je vais spéculer. Alors je vais assez vite sur ces diapos pour vous montrer ce que nous a appris le télescope spatial, c'est-à-dire de nous montrer des zones. Vous voyez les petites zones, ces petits chapeaux très brillants, sont des endroits où se forment de nouvelles étoiles. En moyenne, pour une galaxie comme la nôtre, il y a à peu près la naissance d'une nouvelle étoile par an dans une galaxie comme la nôtre. Il faut savoir que lorsque l'univers n'était âgé que de à peu près 1 milliard d'années, la formation des galaxies, la formation des étoiles a été beaucoup plus importante, mais elle a décru au cours du temps. Donc maintenant, on est dans une phase où la formation des étoiles est beaucoup plus lente. Pour une étoile, on ne peut, comme je vous l'ai dit, à l'exception de Bételgeuse, qui est observée avec le télescope spatial, on n'a accès qu'à deux grandeurs, la couleur, c'est-à-dire des étoiles qui sont froides à l'extérieur aux étoiles qui sont les plus chaudes, de 2500 à 30 000 degrés Kelvin, c'est à peu près la même chose en degrés Celsius, et puis des luminosités qui sont comparables à la luminosité du Soleil, et puis qui peuvent être 100 ou 1000 fois, dit 1 million de fois plus lumineuses comme Bétégeuse, jusqu'à des étoiles qui sont 1 million de fois moins lumineuses comme les géantes rouges. Et alors donc on arrive, connaissant la luminosité et la température extérieure des étoiles, on arrive à savoir dans quel état elles se trouvent. Je montre très rapidement que, comme je l'ai dit, les étoiles, ce sont des gigantesques réacteurs nucléaires, et connaissant leur position dans ce diagramme, eh bien on sait ce qu'elles fabriquent. Par exemple, pour des étoiles comme le Soleil, qui sont la majeure partie des étoiles que l'on observe, elles transforment lentement leur hydrogène en hélium. Des étoiles plus massives comme Bétégeuse, on est sûr que Bétégeuse en est au moins au stade de la transformation d'hélium en carbone ou de carbone en élément plus lourd. Et puis survient à la fin de la vie des étoiles très massives une explosion comme celle de qui s'est produite dans la constellation du Taureau, qui a concerné une étoile qui se trouve à peu près à 400 années-lumière de distance de nous et qui constitue la nébuleuse de Crabbe et qui s'est produite à peu près en l'an 1050 de notre ère. Et plus près de nous, en 1987, nous avons eu la chance en février 1987 d'observer l'explosion d'une supernova qui ne s'est pas produite dans notre galaxie, mais dans la galaxie satellite, qui est donc dans le grand nuage de Magellan. Et à partir de là, on a compris comment les étoiles explosent. Alors pourquoi je vous montre cette diapositive ? Pour deux raisons. La première, c'est que ce sont les explosions d'étoiles qui sont à l'origine de la formation des éléments chimiques complexes comme ceux qui se trouvent sur cette table ou ceux qui vous constituent. Nous avons ce privilège d'être des résidus d'explosions d'étoiles massives qui orbitent autour d'une étoile de faible masse qui, elle, évolue lentement. C'est pour ça que nous sommes en vie. Et la deuxième raison, c'est que un certain type de supernova, la nébuleuse du Crabbe est de ce qu'on appelle de type 2 parce que l'on observe de l'hydrogène, il y a de l'hydrogène à l'intérieur dans son spectre. Il y a une typologie qui s'appelle de type 1, et à partir de ces supernovae de type 1, que l'on peut observer, dont on peut observer l'explosion dans de très nombreuses galaxies extérieures, eh bien, elles constituent ce que l'on appelle des repères, des chandelles cosmiques, c'est-à-dire qu'en observant ces explosions, eh bien, on peut déterminer la distance à laquelle elles se produisent. Pourquoi ça ? C'est parce que elles sont finalement calibrées. Ces supernovae de type 1, chaque fois, elles transforment à peu près la même quantité de nickel 56 en fer 56, donc elles ont la même quantité, elles délivrent la même quantité d'énergie. Donc, comme on connaît leur luminosité intrinsèque, mesurer leur luminosité apparente vous permet de déterminer leur distance, puisque la luminosité apparente est inversement, donc, proportionnel, il y a un facteur en 1 sur R2, le carré de la distance, qui vous permet de relier la luminosité apparente et la luminosité absolue d'un objet. Voilà la raison pour laquelle les supernovae sont des biens qui soient rares, puisqu'il n'y a à peu près qu'une étoile par tous les 50 ans qui devient supernova et par galaxie, donc phénomène rare, mais néanmoins phénomène très important pour le progrès de l'astrophysique. Voici notre galaxie telle qu'elle apparaît dans le ciel, et donc le Soleil est une étoile ordinaire. Nous sommes un système solaire ordinaire. Vous aurez l'occasion d'entendre Alfred Vidal-Majar vous évoquer la façon dont on sait que maintenant le système solaire n'est qu'un des nombreux systèmes qui orbitent autour d'autres. Enfin, il y a d'autres systèmes solaires tournant autour d'autres étoiles. Et donc, vous voyez que le centre de cette galaxie contient beaucoup d'étoiles, beaucoup d'énergie, et que cette énergie est peut-être liée, comme je vous l'ai dit, à l'existence d'un trou noir central. Pourquoi je vous montre la galaxie d'Andromède ? Parce que c'est l'une des plus proches d'entre nous, elle n'est qu'à 2 millions d'années-lumière, et aussi parce que si on la regarde, eh bien on a... Si, par exemple, quelqu'un qui est sur la nébuleuse d'Andromède regarde notre Voie lactée, eh bien, il voit quelque chose de tout à fait analogue. Donc, c'est finalement la sœur jumelle de la Voie lactée. Ce qui est apparent aussi, c'est que vous pourriez vous dire, bon ben, Jean Audouze vient de nous dire que l'univers est à peu près le même partout, donc la matière doit être à peu près distribuée de façon uniforme. Alors ça, ce n'est pas vrai, et c'est une découverte qui date de la fin des années 80, lorsque l'on fait on constitue la géométrie de l'univers observable en mettant un point par galaxie, on observe qu'au contraire, eh bien, l'univers est extrêmement inhomogène. Il y a des endroits où il y a beaucoup de galaxies, puis d'autres régions où il y en a effectivement beaucoup moins. On observe des vides, des creux, et au contraire, des concentrations, vous voyez, extrêmement importantes en galaxies. Donc, il y a une des caractéristiques observables de l'univers, c'est que la matière nucléaire, en tout cas la matière dont nous sommes formés, la matière visible, est distribuée de façon tout à fait inhomogène à l'intérieur de l'univers. Ça, c'est quelque chose d'important pour la suite. C'est un phénomène de l'antigravitationnel. De la même façon que je vous ai dit que les objets se transformaient, on pouvait avoir des trous noirs si la lumière était occlue dans un objet, eh bien, deux collègues, Bernard Faure et Yannick Mélier de l'Institut d'Astrophysique, ont fait leur spécialité de la découverte des arcs, ce qu'on appelle un arc gravitationnel, c'est-à-dire des effets d'astigmatisme induits par la matière elle-même. Et j'aurai l'occasion, s'il me reste le temps, de vous dire que maintenant, l'observation de cet astigmatisme à l'échelle des galaxies permet de dire que donne une preuve supplémentaire en faveur de du modèle de Big Bang classique. Alors, je vous montre maintenant le deuxième, la dame, Madame Henrietta Leavitt, qui est à l'origine d'une des grandes découvertes qui a été faite par Hubble, qui est ce monsieur que vous voyez derrière Einstein. Il a mis du temps à le convaincre d'une chose que je vais vous montrer immédiatement, qui est que l'univers est en expansion. Alors, comment on sait ça? Eh bien, on mesure effectivement, c'est Miss Leavitt, qui au début du XXe siècle a démontré qu'on avait des étoiles dont la pulsation était un indicateur de leur luminosité absolue, si on connaît leur luminosité apparente. De la même façon, enfin, si vous voulez, elle a trouvé les ancêtres des restes des supernovae de type 1A qu'on appelle les céphéides. Et en appliquant, donc on a une échelle de distance, on a maintenant une échelle de vitesse avec le déplacement vers le rouge d'un rayonnement, en particulier des raies d'absorption de l'hydrogène que l'on voit ici. Et puis, lorsque vous regardez, c'est ce qu'on appelle par effet Doppler, vous avez tous expérimenté l'effet Doppler, on l'expérimente quand on sort dans la rue et qu'on en écoute une voiture. C'est-à-dire qu'à mesure que l'objet s'éloigne, la fréquence du rayonnement qu'il émet ou qu'il absorbe, eh bien, croît, c'est la fréquence qui croît, c'est la longueur d'onde qui décroît. Et donc, on observe pour la lumière, on observe effectivement un décalage vers le rouge qui est proportionnel, vous voyez la flèche, qui est proportionnel à la distance. Et donc, Hubble découvre ça dans les années 1920, et dans les années 1929, il démontre que l'univers est en expansion et que cette vitesse d'expansion est constante. Alors, la valeur de la constante de Hubble, c'est-à-dire le coefficient de proportionnalité entre la vitesse d'expansion et la distance, ça a été un grand sujet de polémique pendant pratiquement toute ma carrière. Mais enfin, maintenant, on arrive à un chiffre sur lequel tout le monde est en train de tomber d'accord, d'à peu près 60 km par seconde. Et par mégaparsec, c'est-à-dire toutes les fois qu'on fait 3 millions d'années-lumière, eh bien, la vitesse de fuite d'une galaxie par rapport à une autre augmente d'à peu près 60 km par seconde. Alors, si vous inversez ce coefficient de proportionnalité, eh bien, vous trouvez un âge, je vous invite à faire le calcul, et vous trouvez les 15 milliards d'années canoniques. On est capable maintenant de déterminer évidemment la dynamique, c'est-à-dire qu'on sait par exemple que le Soleil tourne autour du centre de la galaxie avec une vitesse de l'ordre de 400 km par seconde en radialement, et lorsque vous appliquez à ça son diamètre, eh bien vous trouvez que la période du Soleil disons, à l'intérieur de notre galaxie est d'à peu près 200 millions d'années. Alors je vous ai indiqué qu'il y avait un mouvement effectivement d'expansion globale, mais nous appartenons à un groupe local de galaxies dans lequel vous avez la galaxie d'Andromède, par exemple. Nous avons une certaine vitesse par rapport... Nous sommes légèrement attirés par... Enfin, notre galaxie est attirée avec une vitesse de 50 km par seconde. Ça paraît très long, mais comme il y a 2 millions d'années-lumière de distance, ne vous inquiétez pas, c'est pas demain la veille qu'on va tomber sur la galaxie d'Andromède. En tout cas, il y a un léger mouvement d'attraction. Et puis, à l'intérieur, il y a une certaine... un mouvement d'ensemble du groupe local des galaxies vers ce qu'on appelle le grand attracteur. Le grand attracteur, si vous vous rappelez, lorsque je vous ai montré cette photo qui montre la distribution inhomogène des galaxies dans l'univers, eh bien, vous avez vu une espèce de grande, une grande barre dans laquelle il y a verticale, dans laquelle il y a beaucoup de galaxies, et on a l'impression qu'effectivement, notre galaxie, le groupe local, se dirige très légèrement avec une certaine vitesse, vers cet attracteur. Alors, donc, voilà l'univers tel qu'il se présente à nous. On peut déterminer son âge, je vous ai dit, premièrement en inversant la constante de Hubble, on trouve un âge d'expansion. On peut aussi déterminer l'âge des étoiles les plus anciennes, et en particulier celles qui constituent ce qu'on appelle les amas globulaires. Alors ceci représente, c'est une autre façon de représenter la couleur, les rouges, bleus, et puis la luminosité, les moins lumineuses et les plus lumineuses. Et puis vous prenez des amas d'étoiles, c'est-à-dire des étoiles qui sont nées en même temps. Et vous vous apercevez que lorsqu'on a un amas très jeune, en particulier, j'aurais pu le montrer, mais je savais que j'aurais manqué de temps, H.E.K.I. Persei, qui a à peu près quelques centaines de milliers d'années, c'est-à-dire un âge très très modeste par rapport au temps d'évolution astronomique. Et puis les Pléiades, qui est un objet que vous pouvez voir au planétarium du Palais de la Découverte, qui lui est à peu près 500 millions d'années. Mais par contre, les amas globulaires qui ont permis à Chapelet de montrer que le Soleil n'était pas au centre de la galaxie, eh bien, les amas globulaires, voilà un, eux, ils ont un âge que l'on peut déterminer en regardant effectivement, je vous le remontre, les amas globulaires, toutes les étoiles de faible masse sont devenues des étoiles qui ont évolué. Alors que dans les amas très, très jeunes, les étoiles très massives et donc qui ont une durée de vie très faible, eh bien, n'ont pas eu le temps d'évoluer. Et donc, ce qui explique que ça sert, si vous voulez, c'est un chronomètre. Suivant la façon dont la longueur ou le nombre d'étoiles d'un amas qui est encore sur cette séquence principale, c'est-à-dire qui continue à brûler de l'hydrogène en hélium en leur centre, eh bien, vous arrivez à déterminer l'âge de ces étoiles. Et l'âge, pour le moment, en première approximation, correspond. Et la dernière technique indépendante, c'est effectivement de considérer, de mesurer la teneur dans des éléments radioactifs à longue durée de vie, tels que l'uranium-238, le thorium-232, l'osmium-187, en déterminant la composition ou la façon dont ces éléments se désintègrent en d'autres corps, eh bien, on arrive, les géochimistes... Je vais citer celui de Caltech, après avoir cité notre ministre, il s'agit de Gérald Wasserburg à Caltech et puis d'autres, peuvent déterminer un âge de l'univers qui est comparable, qui donne également la quinzaine de milliards d'années classiques. Donc maintenant, je vais poser les questions de la cosmologie. Enfin, je vous ai montré donc qu'on avait un univers qui était structuré, on avait un univers dans lequel apparemment il y avait effectivement une distribution assez inhomogène de la matière, des endroits où il y avait beaucoup de matière, des endroits où il y en avait beaucoup moins, mais finalement, grosso modo, à l'intérieur d'une galaxie, il y avait effectivement une région centrale très dense, mais nous sommes faits, je veux dire, le Soleil, par contre, est quelque chose de tout à fait ordinaire. Donc, on a un univers qui est grand, 15 milliards d'années-lumière de diamètre, c'est ce qu'on appelle l'univers observable, ça ne veut pas dire que c'est l'univers dans son ensemble. Moi, je ne peux traiter, évidemment, la cosmologie ne peut traiter que l'univers observable. S'il y a d'autres univers à l'extérieur, effectivement, Ça, nous ne pouvons rien dire. On fait à ce moment-là des spéculations. Alors maintenant, quels sont les deux types de questions auxquelles qu'on peut se poser? C'est premièrement, est-ce que l'univers a une histoire? Et la deuxième question, de quoi il est fait? Alors vous allez me dire, mais vous avez déjà répondu à cette question. Vous nous avez montré qu'effectivement, l'univers n'était pas le même. Alors c'est vrai, l'univers semble différent dans les différentes périodes de son évolution. Ceci étant, il faut savoir que à l'année 1965, eh bien, les cosmologistes qui imaginaient que l'univers était statique et qu'il était immuable, malgré son expansion, eh bien, cela avait, disons, proclamait la théorie qui était, disons, la plus adoptée à cette époque, la théorie de la création continue. C'est une théorie qui est due à Hermann Bondy, Fred Hoyle, Tom Gold, selon laquelle, eh bien, il y avait une création continue de matière qui, disons, compensait l'expansion de l'univers. Alors, on sait, et pas depuis très longtemps, mais on sait depuis maintenant 1965, que cette théorie a été balayée par la découverte du rayonnement fossile, du rayonnement à 2,73 Kelvin, disons une température très très faible, la température du rayonnement dans lequel nous sommes baignés, et qui correspond, je vais vous le montrer tout de suite. Mais auparavant, l'abélomètre qui est celui qui est le premier avec Friedman, a montré qu'un univers à géométrie sphérique avec un point central était un univers nécessairement en expansion ou en contraction. L'abélomètre a proposé sa théorie de l'œuf cosmique dans les années 1920. Et puis c'est Gamow qui a été vraiment celui qui a prédit à la fin des années 40, bien avant qu'on le découvre, que si l'univers est né d'une phase très chaude et très dense, nécessairement, il a émis un rayonnement. Ce rayonnement correspond au moment où il est passé du stade ionisé, c'est-à-dire d'un stade où il avait une température supérieure à 10 000 Kelvin, au stade légèrement inférieur, où à ce moment-là, les électrons se sont mis à orbiter autour des protons et l'hydrogène est passé de l'état ionisé à l'état neutre. Et à ce moment-là, il y a une forte émission de lumière correspondant à la chaleur qui est libérée par la combinaison des électrons autour des protons pour donner naissance à l'atome d'hydrogène. Ce qu'on appelle la période de recombinaison qui s'est produite à peu près 300 000 ans après ce phénomène initial. Je ne veux pas employer le mot d'origine, et qui correspond effectivement à un moment où l'univers a une température de 10 000 Kelvin. C'est un moment important parce que vous allez voir qu'une grande partie des découvertes qui sont accomplies, ou les travaux qui sont accomplis actuellement et qui sont publiés ces dernières semaines dans les revues scientifiques, je vais y faire allusion dans un instant, eh bien, se réfèrent à cette période de recombinaison. Les astrophysiciens dont vous avez constaté que l'univers était très inhomogène quand on s'intéressait à la distribution de matière. En revanche, je vais vous montrer tout de suite, je vais aller au diapo très vite. Voilà une sonde qui s'appelle la sonde Kobe, qui a permis en 1992, alors je sais que je dois faire quelque chose pour que vous voyez ça, j'espère que vous allez voir, attendez, je dois fermer. Voilà, ça c'est donc le rayonnement qui est émis aujourd'hui, que l'on observe dans nos régions et qui correspond à peu près à quelques millimètres, qui est parfaitement thermique. Le trait représente l'équilibre thermodynamique tel qu'il est prédit par la loi de Boltzmann, loi de physique connue depuis le 19e siècle. Et les petits points, ce sont les erreurs commises c'est-à-dire qu'on voit qu'il est parfaitement thermique. Et d'autre part, à quelques degrés d'inhomogénéité près, dont je vais parler dans un instant, et qui ont véritablement du sens, eh bien, ce rayonnement est à peu près le même, quelle que soit la direction dans laquelle on l'observe. Vous avez observé des distributions de matière très inhomogènes. En revanche, ce rayonnement est en grande partie homogène. Vous vous souvenez peut-être de la production de cette image qui est donc due à ce satellite Kobe. Alors, qui montre qu'effectivement, il y a des inhomogénéités, mais ces inhomogénéités sont de l'ordre du 30 millième, c'est-à-dire 3 parties pour 10 puissance 5. Alors, le problème de cette expérience, c'est qu'effectivement, elle a une résolution extrêmement médiocre, puisqu'elle ne permet de résoudre que des angles de 7 degrés, ce qui est extrêmement, très, très rustique, très approximatif. Alors, vous avez peut-être lu, ou tout au moins je vous signale, que on a refait une expérience, mais au lieu de mesurer tout le ciel, on n'a mesuré qu'une bande, parce qu'un vol-ballon qui s'appelle Boomerang, Boomerang voulant dire observation ballon du rayonnement millimétrique extragalactique, eh bien, a permis de faire une carte, mais au lieu de faire une cartographie de cet ensemble, ils ont pris une région du ciel assez importante, mais enfin. Et puis, ils ont, avec une résolution d'à peu près 60 fois meilleure, c'est-à-dire d'un dixième de degré, c'est-à-dire correspondant à peu près à 5 à 10 minutes d'arc de cercle. Alors, avec une meilleure résolution, eh bien, on peut, à ce moment-là, essayer de voir qu'est-ce que ça dit sur les paramètres qui déterminent la théorie du Big Bang. Alors, j'en arrive à la théorie du Big Bang. Je vous ai dit que la découverte de ce rayonnement fossile oblige les cosmologistes à imaginer que l'univers a une histoire et qu'il a connu, à une certaine époque, une phase qui était dense et chaude, qui correspond d'ailleurs, cette phase de recombinaison, correspond à une sorte d'horizon cosmologique, c'est-à-dire que une des prédictions, c'est qu'on ne peut pas observer d'objets, d'astres, à des distances aussi qui correspondent à cet horizon. C'est-à-dire que lorsque l'univers avait 300 000 ans ou était plus jeune, il était totalement, il n'était pas opaque. Vassil était opaque, mais c'était une grosse boule de feu, mais qui était tout à fait dans lequel on ne pouvait pas distinguer de structure. Ça correspond effectivement à cet horizon cosmologique. Alors vous allez me dire, mais comment sait-on ce qui s'est passé à l'intérieur? Justement, en utilisant les résultats de la physique nucléaire et de la physique des particules. Pendant une seconde, selon la théorie du Big Bang, la température de l'univers a été supérieure à 1 milliard de degrés. Et donc, pour la comprendre, il faut faire appel à la physique des particules. Pendant 3 minutes, la température de l'univers a été supérieure à 10 millions de degrés. Et pour la comprendre, il s'est produit un certain nombre de processus nucléosynthétiques que l'on comprend. Et puis ensuite, effectivement, on a la phase de recombinaison qui a été observée par Kobe, par Boomerang, une très belle expérience, puisque c'est une expérience ballon. Maintenant, on arrive à faire des expériences ballon qui ont donc évolué à peu près à une quarantaine de kilomètres d'altitude pendant 10 jours. Donc, les astrophysiciens du Caltech et de Rome ont accumulé 30 jours de données pour donner une meilleure cartographie de cette phase de recombinaison. Et puis ensuite, donc la phase stellaire auquel on a immédiatement accès. Alors je crois que ce qui est intéressant et important, et ce sur quoi je voudrais terminer, c'est que lorsque je fais ce genre de conférence, on me dit, bien évidemment, vous ne croyez pas à la théorie du Big Bang. Alors je n'y crois pas, mais je dois dire que je vous ai cité un test, le test de la compréhension des inhomogénéités du rayonnement. Un deuxième test, c'est la position des restes de supernovae, des supernovae de type 2A qui c'est donc des méthodes tout à fait indépendantes. Il n'y a rien de commun entre ce rayonnement fossile et l'explosion des supernovae d'un certain type. Eh bien, ces deux techniques donnent quelque chose d'important, c'est-à-dire un univers qui correspond à ce que j'appellerais l'hypothèse la plus classique. Alors, l'hypothèse classique, c'est que pour expliquer, je vous montre la dernière, rassurez-vous, vous voyez que pour comprendre, disons, si on se limite au simple Big Bang et qu'on imagine que l'expansion de l'univers a été constante, eh bien là, on a des problèmes énormes. Enfin, ils sont de différents ordres. Le plus important étant que l'univers n'est pas relié causalement il y a différentes régions du ciel qui ne sont pas reliées causalement, et donc on ne comprend pas pourquoi elles ont la même structure. Alors on a inventé au début des années, fin des années 70, début des années 80, un processus dit, qu'on appelle inflation, dans lequel il y a une accélération extrêmement brutale de l'expansion de l'univers, que les physiciens des particules attribuent au fait que l'on passe, on aurait une force fondamentale qui rassemblerait la force forte, la force faible, la force gravitationnelle et la force électromagnétique. Et puis, au fur et à mesure, à ce moment-là, la force gravitationnelle et puis la force forte se seraient distinguées de la force électrofaible. Et alors, ce serait analogue, si vous voulez, à une transformation de phase avec une grande production d'énergie qui serait peut-être à l'origine de ce phénomène inflationnaire. Alors, le phénomène inflationnaire, pourquoi je vous en parle ? C'est parce que s'il s'est produit, il implique que la densité globale de l'univers a une valeur bien précise qui correspond à l'expansion de l'univers, mais qui est stricte. Si vous ajoutiez un tout petit peu, si la densité était légèrement supérieure, eh bien l'univers pourrait se recontracter à nouveau. C'est ce qu'on appelle la densité critique, et on appelle cet univers-là, on l'appelle univers plat ou univers parabolique par distinction avec un univers elliptique dans lequel vous avez expansion actuelle mais il pourrait se recontracter à nouveau, et puis dans un univers qui serait alors hyperbolique dans lequel l'expansion serait extrêmement rapide. Donc, inflation dit densité, c'est une prédiction de la densité. Et ce qui est remarquable, c'est qu'avec les deux expériences, eh bien, la valeur que l'on arrive à prédire de la densité globale de l'univers est égale strictement à la densité critique. Alors il y a un deuxième point, donc pour le moment, la théorie du Big Bang passe les tests observationnels les uns après les autres. Alors vous avez la deuxième question cosmologique, et je vais en terminer là, c'est quoi l'univers ? Est-ce que c'est de la matière ? Puisque j'ai dit que l'univers était, on le comprenait, nous étions tout à fait ordinaires, donc il doit y avoir de la matière nucléaire partout. Eh bien, la matière nucléaire dont nous sommes formés ne représente qu'en fait que quelques pourcents de cette densité critique. Et en fait, la densité, la criticité de l'univers, elle est due à 30% par la présence de matière, dont la majeure partie doit être formée de particules qui sont massives et qui n'interagissent pas. Alors pourquoi elles sont massives ? Parce qu'on dit que la matière est froide, c'est-à-dire qu'elles ont une agitation thermique très faible, et puis elles n'interagissent pas avec la matière nucléaire, on ne les a pas encore vues. Alors un des candidats possibles de ces particules serait ce qu'on appelle le boson de Higgs, une des particules qui serait déterminée, dont on pourrait éventuellement, que l'on pourrait découvrir avec le futur accélérateur du CERN qu'on appelle le LHC. Par parenthèse, vous pouvez comprendre tout ça au Palais de la Découverte. En ce moment, il y a une exposition qui vous l'explique. Petite page de publicité. Deuxièmement, donc, quelques pourcents de matière nucléaire, 20 et quelques pourcents de cette densité critique seraient formés de matière froide, de ces particules que l'on n'a pas encore détectées. Et puis, les 70% viendraient d'une constante qu'on appelle la constante cosmologique d'Einstein, que Einstein a passé son temps d'abord à... Il l'avait inventé pour... C'est ce qu'on appelle l'énergie du vide. C'est-à-dire c'est quelque chose qui contrebalance l'expansion et qui fait que on peut très bien avoir un univers statique si on prend une valeur de la cosmologie, un paramètre cosmologique assez important. Et en fait, si vous ajustez les paramètres, donc 1, c'est égal à la densité critique, 70% énergie du vide, 27% des particules sombres mais froides, de grande masse, donc froides, et 3%, quelques pourcents de la matière comme nous, et bien vous avez la structure de l'univers. Alors, je termine par quelques phrases. Je vous ai bien évidemment les questions, j'aurais pu en poser d'autres, mais enfin, les questions fondamentales, je crois, quelles sont celles-ci ? Actuellement, on semble avoir des réponses qui sont plausibles et qui sont cohérentes à ces deux questions. Mais dans quelques années, après Boomerang, on va avoir deux sondes spatiales qui s'appellent LuneMap, qui est américaine, l'autre qui s'appelle Planck Surveyor qui va être européenne. On va bientôt détecter les ondes gravitationnelles. J'imagine qu'un jour, on va mettre un télescope à la surface de la Lune. Vous voyez bien que des idées aussi... On imaginait que l'eau avait disparu de Mars, apparemment. Ça reste une spéculation. Donc, vous voyez, ce que je vous décris, c'est effectivement la situation en juin 2000. Et cette situation, elle a beaucoup de raisons de bouger. La gravité newtonienne a été dépassée 200 ans ou un peu plus de 200 ans après par la relativité générale. Donc, il n'y a pas de raison objective à ce que ça change. Deuxièmement, lorsqu'on parle du Big Bang, ce sera ma dernière remarque, moi je ne parle pas d'origine de l'univers, je parle plutôt de l'horizon de notre connaissance, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on peut dire quelque chose, c'est le Big Bang, et à ce moment-là on déroule la physique des particules, la physique nucléaire, que sais-je encore, et avant, eh bien avant, c'est le mystère avec lequel je vous laisse, mesdames et messieurs.
Bonsoir.
Essayez de faire vite parce qu'il y a beaucoup de questions.
Ouais, je pense que c'est des sujets en fait qui doivent intéresser beaucoup de monde. C'est à propos de l'expérience boomerang que vous avez citée, qui semble donner comme conclusion un univers plat. Au vu de différents textes, on a l'impression que c'est un petit peu du miracle tout ça, qu'on arrive à un univers plat. Alors j'aimerais avoir votre avis à savoir est-ce qu'on peut se fier vraiment à ces résultats. Parce que oui, ça tient du hasard d'avoir exactement les résultats qui permettent d'avoir un univers plat. Il y a quand même des incertitudes.
Premièrement, vous avez raison, il y a des incertitudes. Ce qui conduit, si vous voulez, forcément on est un peu schématique, mais l'univers plat est l'hypothèse la plus, disons, celle qui colle le mieux. Tenez, je vais vous montrer un petit diagramme un peu compliqué, mais vous mettez sur le même diagramme les résultats qui proviennent de boomerang et puis les résultats qui proviennent des résultats de la supernovae. Et vous apercevez que l'univers plat est au centre du domaine de plausibilité. Mais je suis d'accord avec vous que c'est ce que j'ai dit un petit peu rapidement dans ma conclusion. D'abord, boomerang, il a une certaine... comment dire ? Il a des caractéristiques, je veux dire, ça veut dire qu'il a des barres d'erreur. Deuxièmement, on va essayer... Enfin, je pense que mes collègues vont passer leur temps à essayer de raffiner et de diminuer la boîte d'erreurs. Et peut-être qu'effectivement, l'univers plat sera peut-être en dehors de la boîte d'erreurs. Pour le moment, il se situe bien au centre du facteur de plausibilité. La deuxième raison que je donnerais, c'est qu'il y a d'autres mesures auxquelles je n'ai pas fait allusion. Par exemple, il y a des collègues de l'Institut qui s'appelle Gary Mamon, pour ne pas le citer. Il va passer sa thèse d'habilitation lundi, et il a fait un travail extrêmement intéressant en mesurant la courbure, en essayant d'estimer la courbure de l'univers à partir des diamètres des structures de quasars, en comparant les structures de quasars lointaines par rapport aux structures de quasars proches. Il a une idée, enfin, il arrive comme ça à avoir une mesure de la courbure de l'univers qui correspondrait aussi avec les erreurs, bien entendu, à un univers plat. Donc, vous avez raison de dire qu'il ne faut pas se laisser abuser par ce qui apparaît comme miraculeux. Simplement, aujourd'hui, ça va dans le bon sens, c'est tout ce que je dirais. Aujourd'hui, la théorie du Big Bang passe les tests. Mais je vous dis aussi qu'avec d'autres expériences plus raffinées, peut-être qu'effectivement, on aura tellement de... Si effectivement on a une meilleure précision, peut-être qu'on sera, le point oméga égale 1 sera en dehors de la boîte d'erreur, et à ce moment-là, il faudra compliquer les calculs. Par exemple, il y a une difficulté qui est inhérente actuellement avec ce modèle-là, c'est que la densité nucléaire prédite par ces dernières expériences par rapport à la densité nucléaire qui sont prédites par les calculs de la nucléosynthèse primordiale telle que nous la faisons, Michel Cassé, Elisabeth Flamme, moi et d'autres, hein, eh bien, il semblerait qu'il y a une discordance. Donc vous voyez que tout n'est pas parfait dans ce vaste univers, et cette discordance, effectivement, là, pour le moment, on ne la comprend pas. C'est-à-dire que ces univers-là aboutiraient à des densités plus importantes de matière nucléaire, et ce qui voudrait dire que normalement, il ne devrait plus y avoir de deutérium. Là, on ne sait pas expliquer la teneur de deutérium, d'où une difficulté.
Monsieur.
Oui, s'il vous plaît, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la nature du grand attracteur dont vous parliez, là, qui attire le groupe local ?
Ben, ce que j'en sais, hein, c'est-à-dire un petit... Ben, le grand attracteur, comme je vous ai dit, c'est une concentration, je crois que c'est dans la direction de la main de la Vierge, une très grande concentration de galaxies, et qui, effectivement, on l'appelle le grand attracteur parce qu'il induit un mouvement, enfin, il a un effet gravitationnel assez important sur, par exemple, notre groupe local qui est constitué d'une vingtaine de galaxies. Enfin, il y a la galaxie d'Andromède, les deux nuages de Magellan, puis quelques autres, ça fait à peu près 20 galaxies, les galaxies proches, qui semblent aller dans cette direction. Et effectivement, cette direction correspond à une concentration très importante de galaxies qui se trouvent être extrêmement condensées dans un volume très réduit. C'est ça qu'on appelle le grand attracteur.
Monsieur. Oui, bonsoir monsieur. La théorie du Big Bang, c'est... Vous avez été remarquable, monsieur. Mais d'abord...
Je me méfie beaucoup de cette introduction.
Non, mais attendez, j'ai une question.
Allez vite.
Comment
hein.
ça se fait qu'il y a eu le Big Bang alors qu'il y a eu des trous noirs ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le Big Bang final, ça sera un immense trou noir ?
D'abord,
et ma deuxième question, rapidement, c'est s'il y a plusieurs univers, normalement, il y aurait dû avoir plusieurs Big Bang.
Alors, rapidement, premièrement, si l'univers, comme je l'ai dit, est plat, alors on peut débattre ou pas, il est en expansion continue. Ça veut dire que le Big Bang ne se reproduira plus. Ça veut dire qu'il est en expansion. Effectivement, on imagine, bon, ça ce serait une autre conférence, que l'univers sera fait de... Comme les trous noirs absorbent la matière environnante, les différentes galaxies vont chacune devenir un trou noir. Et puis après, il faudra attendre dans des temps qui sont incommensurables, enfin que l'on peut décrire par un chiffre, mais qui n'ont rien à voir avec nos échelles de temps, eh bien ces trous noirs disparaîtront, c'est-à-dire que la matière deviendra rayonnement. Alors la deuxième question, c'était sur
plusieurs univers.
Alors c'est ce que j'ai dit, je ne peux décrire qu'un univers, l'univers observable. Il y a des cosmologistes comme Linde, qui est un... et qui imagine qu'effectivement, pour sauver l'univers immuable, alors on sait maintenant que l'univers observable ne l'est pas, mais on peut se dire, il y a peut-être à côté un univers qui est en expansion, un autre en contraction, etc. Des univers parallèles. Alors ça, c'est une spéculation, ça veut dire que vous avez le droit de le dire, mais je ne peux, ou de ne pas le dire, c'est-à-dire que je ne peux pas le prouver. Alors donc, effectivement, il peut y avoir des univers parallèles, mais ça sort, si vous voulez, de la description physique de l'univers.
Monsieur,
s'il vous plaît.
Allez-y.
Oui, bonjour. C'est pour une question d'ordre mathématique et d'ordre physique. Enfin, deux questions. Une mathématique et une physique. La première question d'ordre mathématique, il y a une vingtaine d'années, il y a un mathématicien, Thurston, qui a fait une étude sur les variétés à quatre dimensions. Est-ce que cela a eu des retombées sur la structure topologique de l'univers ? Et la question physique, c'est que on pense qu'il y a des oscillations entre les neutrinos qui pourraient conférer aux neutrinos une masse. Est-ce que cela aura un destin sur l'univers ? Bon, alors, pour la masse, pour la courbure de l'univers.
Bon, alors, attendez, c'est des questions difficiles. Je vais essayer, évidemment, mes réponses seront très schématiques et forcément pas très satisfaisantes. Alors, effectivement, pour expliquer, la deuxième question n'a pas grand-chose à voir avec la cosmologie, c'est pour expliquer le fait qu'on ne voit pas les neutrinos solaires. Alors, on imagine qu'ils oscillent, c'est-à-dire qu'ils se transforment en un autre neutrino qui pourrait effectivement, peut-être, mais... c'est un des modèles pour expliquer la masse de l'univers, mais ce n'est pas le modèle qui est retenu parce que les oscillations correspondent à des masses très ténues et donc à ce qu'on appelle de la matière chaude, et donc c'est pour le moment éliminé par les observations. Alors vous parlez ensuite des variétés à quatre dimensions. Alors je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas non plus la compétence pour parler de tous les modèles topologiques de l'univers, en particulier celui qui fait intervenir ce qu'on appelle les cordes. Alors on imagine par exemple que l'univers avait n dimensions et puis qu'on est passé de 20 et quelques à 4 et que ce passage a correspondu à soit des défauts topologiques qui flotteraient encore, qui pourraient... Apparemment, ces défauts topologiques, Boomerang et les autres, sont en train de les éliminer. Mais enfin, il y avait des théories. Et puis, ou alors ces fameuses cordes qui seraient des objets particuliers, dont les dimensions... Enfin, pour les décrire, on ne parle pas de dimension 4, mais on parle de dimension 10 ou 22. Donc, effectivement, des modèles multidimensionnels sont invoqués par certains cosmologistes pour essayer d'expliquer le Big Bang.
Monsieur.
Dans le cadre du modèle admis, quand on regarde loin à 15 milliards d'années-lumière, on observe le Big Bang. Mais ça...
Non.
C'est pas ça.
Bon. Oui, enfin, on observe.
Oui, on regarde vers le Big Bang.
Oui, on regarde vers le Big Bang. Oui,
mais ça, c'est vrai dans toutes les directions. Donc, le Big Bang, s'il est localisé dans le temps... n'est pas localisé dans l'espace.
Non.
Il n'est pas localisé dans l'espace, mais on dit que la matière avait une densité presque infinie. Alors, à ce moment-là, on en déduit que la masse de l'univers elle-même est infinie.
Excusez-moi.
Non, c'est tout. Enfin, j'ai du mal à concevoir les problèmes de dimension. Quoi.
Ah ben moi aussi, ça je vous rassure. mais simplement pour répondre à votre question, c'est que... Il faut imaginer que nous faisons partie de cette expansion aussi. C'est-à-dire que le Big Bang, il s'est produit partout, il continue à se produire ici et ailleurs, vous voyez ce que je veux dire. Parce que c'est le Big Bang maintenant. Lorsque je regarde dans le passé, je regarde le Big Bang dans le passé. Par exemple, lorsque je regarde ce quasar qui a 5,8 de... Il faut voir, c'est faramineux pour arriver à un décalage vers le rouge de 5,8, qui est donc à 14 milliards d'années-lumière. Il est à un moment... la température n'est pas de 2,7 Kelvin, elle est à ce moment-là de 10 ou 20 Kelvin. Donc, si vous voulez, ce point-là, maintenant, on ne sait pas comment il a évolué. Ce quasar a pu disparaître. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on voit des tranches de passé, et à partir de là, on essaye de spéculer effectivement sur ce qu'a pu être ce moment originel. Mais les densités, elles étaient très grandes, mais elles n'étaient pas... La théorie de l'inflation, enfin plutôt le modèle inflationnaire a été inventé justement pour éviter la singularité. C'est-à-dire que ce que les physiciens détestent par-dessus tout, contrairement aux mathématiciens, les mathématiciens sont heureux avec zéro et infini. Nous, on est très malheureux, comme vous l'êtes. Et donc, la théorie de l'inflation vous permet d'éviter le R égale zéro et la densité infinie. Et donc, elle était très grande, mais elle n'était pas infinie.
Monsieur.
Oui, dans la théorie de l'expansion, la formule de Hubble, V égale H0D, implique que si on prend des objets suffisamment loin les uns des autres, ou loin de nous, ils ont une vitesse de fuite par rapport à nous, supérieure à la lumière.
Non, justement, mais il y a un effet relativiste. Donc, je n'ai pas eu le temps de vous... Là, je vous ai parlé, j'ai évoqué devant vous la formule de Hubble, V égale HD, qui est non relativiste. Dès que la vitesse d'expansion devient, vous ajoutez un terme relativiste un peu analogue au coefficient de Lorentz que vous mettez lorsque vous reliez le temps et l'espace dans une formule de relativité restreinte. Donc, si vous voulez, la loi de Hubble est plus compliquée lorsque les vitesses augmentent.
Oui, bon, ça, on trouve bien dans un certain nombre de manuels de cosmologie, de physique.
Eh ben alors, ils sont
Alors, on entend les deux.
Comment ?
On entend les deux. Vous donnez la théorie, je dirais, inverse, en disant que la vitesse d'expansion d'éloignement due à l'expansion ne peut pas être supérieure à la lumière.
Moi, c'est ce que je dis.
Et pourtant, on trouve aussi l'inverse, affirmé.
Eh ben, je lirai alors avec... mais à ce moment-là, pardonnez-moi, mais comme je l'ai dit, je me place dans un modèle physique dans lequel les lois de la nature restent celles qui prévalent ici et dans lequel la vitesse de la lumière est un absolu. Alors, la vitesse de la lumière, c'est vrai qu'elle ne, elle ne s'applique que lorsque de l'information circule. Par exemple, elle ne s'applique pas... Le mouvement inflationnaire est un mouvement super lumineux. Mais pour la constante de Hubble... Eh bien, on peut corriger par les effets relativistes. C'est ce que mes lectures me disent, mais peut-être que vous en avez d'autres, et là...
Encore deux questions, une ici, et puis une par là-haut, et quelqu'un qui est où là, c'est ça.
Actuellement, il semble que quand même l'univers soit très complexe, et d'autre part, vous dites qu'il y a les lois, les seules lois dont on doit tenir compte sont des lois de la nature relativement simples, finalement. Est-ce qu'on peut, on peut en déduire qu'au départ, quel que soit l'aspect de départ de cet univers, la complexité est infiniment moins grande?
Ah non, je dirais plutôt le contraire. C'est-à-dire que, enfin, pour moi, j'en sais rien, mais pourquoi effectivement... La façon dont j'aime à penser les choses, j'ai du mal à imaginer qu'il y a eu... Enfin, je pense que c'est parce que nous n'avons pas les outils physiques suffisamment élaborés qu'effectivement nous arrivons à une barrière qui est la barrière du Big Bang. Si on avait une physique un peu plus élaborée qui nous permette de faire de la physique des particules avec d'autres... avec d'autres outils, mais les outils sont nécessairement limités. Je n'ai pas eu le temps parce que je ne faisais pas... Mais quelqu'un qui ferait un cours de mécanique quantique vous dirait qu'il y a... j'appartiens à l'école de Bohr, selon laquelle il y a un indéterminé absolu. Je n'ai pas eu le temps de parler du temps de Planck. Si vous prenez toute l'énergie de l'univers et que vous appliquez le principe d'incertitude d'Heisenberg, vous trouvez un temps irréductible de 10 puissance moins 43 secondes qu'on appelle le temps de Planck. Alors, si vous appliquez la mécanique quantique à l'univers dans son ensemble, vous arrivez à un indéterminisme irréductible. Alors, est-ce que c'est... Ceci étant, ça n'empêche pas des penseurs ou des gens de dire, enfin, comme Einstein l'a fait sans succès pour le moment, mais la science, elle progresse. Hein, je vous donne la situation aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, on arrivera à dépasser cette incertitude, mais moi, je n'en suis pas convaincu. Donc, pour moi, la complexité augmente lorsqu'on remonte dans le temps.
Dernière question, monsieur Là-haut.
C'est pour revenir à la question de ce qui se passe avant l'horizon observé par Kobe, etc. Et en faisant un parallèle qui est un petit peu naïf, avec le schéma que vous faisiez des différents objets avec leur masse et leur volume, vous disiez qu'il y a un espace, enfin une zone du graphique qui est celui des trous noirs, qui est la zone interdite. Et vous aviez situé dans ce graphique l'univers actuel avec son volume et sa masse.
Un petit peu plus haut quand même.
Voilà. Et si on se situe dans l'univers des origines, est-ce qu'on n'est pas en plein dans cette zone interdite? Une masse identique à celle de l'univers actuel et un volume qui...
Ça, je n'en sais rien. Alors, je vous empêche pas de penser ça, mais je n'en sais rien, mais j'en doute quand même. Parce que j'ai l'impression... Enfin, je ne vois pas comment un univers qui est resté, qui serait dans une zone interdite, brutalement, aurait pu devenir perceptible. Ou alors, ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes toujours dans cette zone interdite. Auquel cas,
oui,
vous voyez ce que je veux dire.
C'est ça qui crée des interrogations. Comment a-t-il réussi? S'il a été à un moment dans une zone interdite, comment a-t-il réussi à s'en sortir?
Ben, moi, pour ça que je préfère qu'il n'y soit pas allé. Mais ça, c'est une question de...
Merci.